Pis-toi ta journée avec Élisane Pellerin.
Bienvenue à Pis-toi ta journée, un balado où on s'entretient avec des personnes marginalisées par la société. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mme Charlie Rousseau. Bonjour, Charlie.
Allô.
Bienvenue.
Merci.
Charlie, on vous reçoit parce que vous êtes, entre autres, une actrice qu'on a vue dans Vestiaire dernièrement. Vous êtes aussi une personne qui avait une condition particulière. Voulez-vous nous en parler?
Oui, bien, dans le fond, moi, c'est ce qu'on appelle une malformation aux membres inférieurs et supérieurs de façon congénitale, ce qui veut dire à la naissance.
Oui.
Donc, en gros, en langage plus commun, j'ai un seul bras, qui est le bras droit, un seul doigt sur celui-ci, qui est selon moi le majeur, mais on n'est pas, il n'y a pas de preuve encore.
On n'est pas sûr.
On n'est pas 100% sûr, c'est encore un débat. J'ai mes deux jambes, mais seulement une moitié, parce que dans le fond, mes pieds sont situés où les gens habituellement ont leurs genoux.
Oui.
Donc, je n'ai pas la partie inférieure de la jambe. Et à gauche, j'ai un bout de bras, un moignon, autrement dit, là.
Et ça, vous avez dit que ça vient de votre naissance. Voulez-vous un peu parler des circonstances?
Bien, dans le fond, les circonstances sont assez originales. Ils sont pas piqués des vers. C'est que, en fait, lors de ma conception, mes parents, qui se sont protégés d'ailleurs, ma mère est tombée enceinte malgré le moyen de contraception, le condom. Oui. Et mes parents n'étant pas prêts à devenir parents, n'étant même pas un couple officiel, tout ça, ils ont pris la dure décision, mais tout de même responsable, d'aller vers un avortement.
Oui.
Donc, à l'époque, en 96, c'était un curetage. Donc, ça s'est fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas eu d'erreur médicale ou quoi que ce soit. C'est après où il y a eu une erreur médicale. Parce qu'en fait, chose qui peut encore arriver aujourd'hui en 2024, l'avortement n'a pas fonctionné. Donc, normalement, quand tu subis un avortement, tu refais un test de grossesse, on va dire, 2-3 semaines plus tard, juste pour t'assurer que tu oui. n'es plus enceinte. Et à ce moment-là, ma mère, c'est ce qu'elle a fait. Et elle s'est rendue compte qu'elle était toujours enceinte.
Oui, parfait.
Donc, ils ont évidemment reconsulté le docteur. Mais là, il y avait un peu l'impression de se battre contre la vie, contre le sort. On ne sait pas trop contre quoi, contre une force externe. Tu sais, il se protège, moyen de contraception, un avortement, ça ne fonctionne pas. C'est comme, OK, c'est pas nécessairement le fun non plus passer par cette procédure médicale. Donc, ils ont décidé, ils se sont dit, écoute, on ne sera pas les pires parents du monde, là.
Non.
On ne se sentait pas prêts, mais en même temps, essayons-le. Au pire, on finira séparés. On ne sera pas non plus les premiers parents séparés. Puis, je veux dire, tu sais, ils ont quand même une mentalité similaire, donc, pour l'éducation d'un enfant. Donc, là, finalement, ma mère, ne voulant pas non plus repasser par la procédure de l'avortement, bien, ils ont décidé de garder l'enfant. Mais évidemment, ils ont posé des questions, là, au docteur, du genre, bien, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il va avoir des conséquences à long terme? Et les médecins ont répondu, bien, non, on n'est pas dans un film de science-fiction, là. La balayeuse n'est pas partie avec un bras, une jambe, puis tout. Donc, au final, il n'y a pas de problème. Si vous voulez garder l'enfant, repartez chez vous. Et ayez beaucoup de plaisir.
Donc, ce qu'on pense, en fait, c'est que c'est la procédure, donc, le curetage qui aurait causé votre différence. Et puis, malgré ça, en fait, bon, il faut dire d'abord que vous n'étiez pas... j'ai pas eu la misère. malgré ça, en fait, il faut dire que vous étiez pas dans une, vous êtes pas en ce moment dans une vie ordinaire, dans le sens où vous avez quand même là, différentes adaptations à avoir dans votre vie quotidienne pour vous aider. Par contre, vous êtes quand même entre autres une actrice aussi une animatrice de radio. Vous avez fait vos études à Ottawa, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement, à la Cité collégiale à Ottawa.
À l'animation de radio.
Mm-hmm. Oui, le programme, ça s'appelait Radiodiffusion. Là, ça a plus ce nom-là, c'est création de contenu. Mais il y a quelques années, c'était Radiodiffusion.
Donc, vous étiez. Votre but à ce moment-là, c'était d'être animatrice de radio.
Oui, exactement. Quand
Et
je suis sortie du secondaire.
C'est ce que vous avez fait aussi pendant plusieurs années.
Oui.
Comme animatrice de radio. Par contre, il est arrivé une opportunité avec Vestiaire qui est de devenir actrice. Et avant ça, même, là, vous avez aussi joué dans Gang de Malades, qui était une émission avec des caméras cachées où des personnes en situation de handicap diverses faisaient des coups là, à la population, un peu voilà, à la façon de caméras cachées. Et donc, vous avez joué dans ça pendant combien de temps?
Ça a fait 2 saisons, Gang de malades. Ça a arrêté parce que malheureusement, on était trop facilement reconnaissables.
Oui, à un moment, j'imagine qu'effectivement,
c'était
les gens s'en doutent.
Ouais. Puis on tournait beaucoup dans les environs de Montréal. Donc là, à un moment donné, les gens nous reconnaissaient un peu trop. Fait que c'était difficile de les pogner. Là.
Oui, bon, c'est une bonne chose. Ça veut dire que les gens écoutaient l'émission. Mais effectivement, à un moment, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, le concept d'émission, malheureusement, tombe de lui-même. Et pour ce qui est de vestiaire, donc j'imagine que vous avez fait les auditions. Il y avait des auditions ouvertes là, qu'on a vu passer là, il y a quand même plusieurs mois de ça. Vous avez été prise en audition et depuis, vous êtes comédienne donc pour vestiaire. Comment ça se passe?
Ça se passe super bien. On va commencer les tournages de la saison 2 sous peu. Ça se passe pendant l'hiver et ensuite la diffusion va se faire au printemps. Puis j'ai super hâte de retrouver l'équipe puis de retrouver le plateau de tournage aussi.
Vous êtes également donc créatrice de contenu. Là, vous avez un TikTok où vous partagez un peu sur votre réalité en tant que personne en situation d'handicap. Vous avez quand même une bonne base de fans là, qui vous suivent et vous faites en sorte qu'on puisse apprendre de votre condition puis plus largement là, de la condition des personnes en situation d'handicap avec des petites vidéos qui sont un peu ludiques, là, mais qui expliquent quand même qu'un format un peu éducatif la plupart du temps.
Quand même, c'est sûr et certain que c'est un objectif. En fait, tant mieux si je réussis à informer et éduquer les gens, mais c'est sans c'est sans prétention de le faire. Là. C'est plus pour le plaisir, puis oui, pour démontrer mon quotidien, mon day-to-day.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça?
C'est vraiment justement pour le plaisir. En fait, ça faisait très longtemps que je voulais faire une chaîne YouTube. Mais pour n'importe qui est un peu qui connaît un peu YouTube, ben ça implique quand même du montage. T'sais, tu fais pas nécessairement ça avec ton téléphone, ça se fait, mais je veux dire tu le fais de façon générale avec une bonne caméra, faut s'équiper tout ça. Puis j'avais toujours la procrastination dans le fond, j'avais pas de bonnes raisons mais je le faisais pas. Je me disais ah oui, plus tard, puis je me disais ah les gens exemple quand ils me demandent comment tu conduis, je pourrais faire une vidéo,
oui.
La mettre sur YouTube puis leur dire ah ben tiens, va voir, tu sais comme ça les gens comprennent. Sauf que je le faisais jamais. Je prenais pas le temps de le faire et finalement TikTok est arrivé.
Oui.
C'était un moyen un peu différent de YouTube, plus immédiat, justement, que tu pouvais faire avec ton téléphone.
Et plus facile d'utilisation quand même pour faire de courtes vidéos, effectivement.
C'est
quand même très à la mode. On dirait que les chaînes YouTube sont quand même un peu moins à la mode, en tout cas pour ce type de contenu-là. TikTok est maintenant, avec la nouvelle génération, très, 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 très en demande énormément de comptes. Et vous parliez de la façon dont vous conduisez. C'était un vidéo que vous avez mis là, finalement sur votre TikTok et qui a attiré quand même beaucoup de gens. Là.
Oui, c'est un des premiers vidéos que j'ai fait, puis il y a eu 4 millions de vues.
Quand
pas
même.
Juste au Canada, là, mais un peu à l'international, même si je parle français dedans. Fait que je sais pas les gens du Mexique qu'est-ce qu'ils comprennent, mais...
Ben, en même temps, j'imagine qu'ils comprennent la base.
Ouais.
C'est-à-dire une dame en situation d'handicap qui arrive dans une voiture adaptée.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Le but, c'était de montrer ma voiture adaptée, les adaptations. Ça impressionnait bien les gens, puis je voulais qu'ils puissent voir ce qui en était. Puis, c'est ça, il y a eu un beau
une belle réponse à ça. Puis maintenant, c'est ça, vous avez tout à fait là, les fans avec vous qui suivent vos péripéties, parce qu'il doit y en avoir quand même là, des péripéties dans votre vie à tous les jours. Là. Comment ça se passe, l'épicerie, par chez vous?
Ça se passe bien, mais tu sais, je veux dire, je suis de petite taille. Comme je le disais, tu sais, je mesure 4 pieds. Donc, il est évident que les choses qui sont situées en tablette plus haute, là, c'est difficile.
Oui.
C'est difficile, mais c'est difficile même pour quelqu'un qui a de 5 pieds 3.
Oui, là. Oui, c'est difficile pour moi aussi. Puis je suis quand même, je mesure 5 pieds 6. Mais effectivement, là, quand on essaie de grimper pour aller chercher les biscuits du haut, finalement, peut-être que tu vas prendre ceux du bas parce qu'ils sont plus accessibles, même si c'est pas tes préférés.
Moi, non, pas dans ce cas-là, mais je vais plus demander, en fait. Il y a toujours quelqu'un.
Qui va
souvent,
vous aider,
j'attends
ouais.
Une petite minute. Tu sais, mettons, quand t'es toute seule dans la rangée, là, mm-hmm. Puis là, je regarde à gauche, à droite, il y a personne. Bon, ben, j'attends une minute, je fais semblant que j'ai autre chose à faire. Puis finalement, quelqu'un arrive, puis je peux lui demander donc de me donner le produit nécessaire.
Oui, et je faisais ça moi aussi à Montréal quand j'étais perdue, parce qu'il faut dire que j'ai aucun problème visuel, mais que j'ai aucun sens de l'orientation. Là, c'est pas venu avec moi. J'ai d'autres belles qualités, mais ça, je ne l'ai pas. Puis, à Montréal, là, quand j'avais besoin d'aide, je mettais mes lunettes de soleil parce qu'avec mon chien d'assistance, les gens pensaient que j'étais aveugle et quelqu'un venait m'aider.
Ben oui.
C'est un peu triste de devoir faire ça, mais si vous saviez à quel point ça marche. L'envers du décor, c'est qu'il faut que j'enlève mes lunettes de soleil quand j'ai pas besoin d'aide parce que sinon, les gens me prennent par le bras, mais me bousculent des fois sans le vouloir. Je suis un peu, ils peuvent être un peu intrusifs. Donc, des fois, parce que j'ai pas l'équilibre, ils veulent me prendre ou me poussent quelque part pour essayer de me montrer le chemin et je me faisais bousculer. Donc, effectivement, quand j'ai pas besoin d'aide, il faut que j'enlève mes lunettes de soleil. Mais même quand je les ai pas, là, souvent, les gens à l'épicerie, moi, prennent il y a produit pour moi, ils le mettent dans mon panier parce qu'ils pensent que je le vois pas. Alors que souvent, ça arrive souvent avec la pizza parce que la pizza, j'aime pas la pizza croûte mince. Fait que je cherche la pizza, elle lève au four. Puis il y en a pas tout le temps. Donc les gens pensent que j'arrive pas à voir. Donc me prennent une pizza et la mettent dans mon panier. Là, il faut que je la reprenne dans mon panier, que je la remette à l'endroit. Puis ça peut arriver à quelques reprises pendant l'épicerie. Il y a toujours beaucoup de choses à dire quand on va à l'épicerie. Là.
Je pense qu'il faut retenir justement que les gens sont vraiment gentils.
Ils sont très gentils.
Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça part d'une belle attention, de vouloir nous aider. Moi, je veux dire, jamais de toute ma vie, je vais me faire dire non. Là, en même temps, qui ça t'engage à quoi? C'est 2 secondes.
Oui, voilà.
Tu me donnes les olives qui sont trop hautes, puis je pense que les gens sont bien satisfaits d'avoir fait une bonne action.
Oui, tout le monde est très heureux. Vous avez vos olives. Eux se sentent bien. Et évidemment, ils vont raconter ça en arrivant à la maison. Là, j'ai aidé une dame là,
oui.
qui était de plus petite taille. Je lui ai donné ses olives. Puis madame n'avait pas ses olives.
J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours. En fait, j'étais chez Walmart, justement. Puis c'est des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc on parle un peu, on prend une photo. Finalement, on se sépare. Je continue oui. mes courses. Puis là, plus tard, on arrive dans la section du lait. Puis le lait que je voulais, il était trop haut. Fait que là, je l'ai revu. J'ai dit, hey, ça vous tente-tu de me donner un coup de main? Elle a dit, ben oui, je vais pouvoir raconter que je vous ai aidé.
Je me suis dit, c'est ça d'être une star, en fait. Hein? Les gens vont vous aider. Puis est-ce que vous êtes plus reconnu maintenant que vous faites du vestiaire ou c'est vraiment votre TikTok qui vous fait plus reconnaître dans la rue?
C'est vraiment 50-50, je dirais, en fait, parce que TikTok va peut-être aller chercher un public plus jeune, plus ado, fin adolescente, début adulte, toute la vingtaine.
Oui.
Il y a aussi des gens dans la trentaine, oui. dans la quarantaine, évidemment, sur la plateforme, mais tout ça
il
pour dire
moins,
que
oui.
c'est un public plus jeune. Alors que vestiaire, des fois, aussi, vu que c'est le câble, vu que c'est à la télé, ben ça va chercher un public peut-être plus neutre,
plus élevé,
quarantaine, ouais. cinquantaine, tu sais.
Pas plus élevé, mais plus âgé, oui.
Ouais, donc, mais tu sais, je veux dire, là, c'est vraiment des généralités, là.
Oui,
mais donc, ça va chercher un public large, parce qu'au final, c'est soit que les gens me connaissent de projets comme de l'humour, soit des réseaux sociaux, ou soit de vestiaire, donc ça apporte une belle visibilité.
Charlie, on parlait que vous êtes, entre autres, comédienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez continuer si vous avez d'autres opportunités? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire à long terme?
Ben oui, certainement. C'est sûr que moi, je prends beaucoup la diversité sur les réseaux sociaux et à l'écran des médias traditionnels, donc à la télé, dans des films. Jouer dans un film, ça serait cool. J'avoue que j'aimerais bien ça. J'aimerais ça aussi, t'sais, encourager de façon générale à ce que les personnes qui ont un handicap ou une différence soit à la télé, pas juste pour jouer la personne qui a un handicap. C'est un peu dans le cliché de la personne en fauteuil roulant va
oui.
jouer quelqu'un en fauteuil roulant. Alors que dans la vie, il y a des avocats qui sont en fauteuil roulant, puis il y a des... Tu sais, on comprend
oui.
le principe. Donc, c'est sûr que la journée que Fabienne Larouche m'appelle, je suis disponible pour jouer dans Stats.
On dit bonjour à Fabienne qui écoute tous nos épisodes. Bonjour, Fabienne.
Non, mais Stats, je serais down. Je suis sûre que je serais une bonne docteure.
Ah, oui, j'aime ça. J'aime l'idée. Ça ferait parler les gens, mais en même temps, ça serait un peu provocant. J'aime ça.
Tu vois, c'est ça, parlez-en bien ou en mal, mais dans le sens où moi, quand j'étais jeune, en cours d'art, pas d'art dramatique, d'art plastique,
oui.
on prenait le pinceau puis on le tapait sur ma main.
Oh.
Avec du tape. Puis donc, j'étais
que
capable
de... Que ça peut
de...
faire du duct tape, hein?
Donc,
ça
imagine...
Ça règle tous les problèmes.
C'est ça, on pourrait taper la scalpel.
Ah, oui, j'aime ça.
Je suis sûre que c'est, ça se fait.
J'aime ça. Ben oui, ça se fait.
Mais oui.
C'est sûr que ça se fait. Je suis pas sûre au niveau de l'écran ce que ça donnerait, mais c'est sûr que ça se fait.
Ça se
donc,
fait.
On fait un petit appel à Fabienne Lacroix. On s'appelle Fabienne. Moi, je peux jouer le rôle de ton agent.
Oui.
Puis on s'appelle. Mais plus sérieusement, on parlait aussi du fait que les personnes en situation de handicap sont moins bien représentées à l'écran. On en voit de plus en plus, mais quand même, pour vous, il y a un chemin à faire qui n'est pas encore totalement fait.
Exactement. Parce qu'en fait, c'est que oui, on en voit de plus en plus, mais comme je l'ai dit, c'est des personnes qui vont jouer un rôle d'handicapé.
Oui.
Tu sais, un non-voyant qui va jouer un rôle de non-voyant et tout ça. Donc, c'est ça un peu que je reproche à la télé actuellement. Il n'y a pas de gens qui sont dans des films ou des séries où on fait abstraction de leur handicap. Justement, où je pourrais être une secrétaire, je serais derrière un bureau, on n'accuse pas mon handicap, on n'en parle pas. Même pas besoin, là, tu sais, si j'ai juste un petit rôle vite fait de 2-3 épisodes, pas besoin, là, d'en parler pendant 3 ans, là. Donc, voilà.
Après, on est quand même parti loin, parce que je vous rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, la personne aveugle était jouée par une personne non aveugle. Et la personne en situation de handicap était jouée par une personne qui n'était pas handicapée. Donc, on arrive quand même... Maintenant, on essaie de donner un peu plus ces rôles-là à des gens qui sont en situation d'handicap. C'est un peu plus reconnu, même que quand tu le fais pas, c'est un petit peu plus mal vu.
Mm-hmm.
Donc, quand même, on avance, mais je comprends bien ce que vous dites. Effectivement, il y a quand même du chemin à faire, puis on dirait qu'on y n'imagine pas, puis c'est triste, mais effectivement, on n'imagine pas que quelqu'un comme vous, par exemple, soit juste un avocat. Puis qu'on n'adresse pas du tout la différence physique, alors que dans les faits, c'est vrai que ça ne changerait absolument rien, dans le sens où vous pourriez avoir un personnage totalement composé avec ses défis sans qu'on ait besoin de parier du handicap. Mais effectivement, ça ferait parier la population. Après, bon, peut-être qu'ils arrêteraient de parier des vêtements des gens. Hein,
oui,
ils ont besoin d'avoir quelque chose de quoi parler. Je suis d'accord.
Puis tu sais, dans la vraie vie, je pourrais être avocate.
Oui. Oui,
on n'accuserait pas mon handicap à chaque fois que je me présenterais en cours. Tu sais, ça l'aurait aucun
rapport. Non, à un moment donné, ça passerait. Les premières fois, on aurait des regards un peu, ça serait...
C'est sûr, puis les gens vont toujours avoir des regards parce que mon handicap est physique, puis ça se voit dès le premier regard. Mais dans le sens où on ne l'adresserait pas, tu sais,
je comprends.
Secrétaire, je pourrais l'être, je pourrais même être mécanicienne. Là, peut-être que les gens auraient des petits doutes sur ma capacité à changer des pneus. Mais si j'étais...
Mais en tout cas... Vous seriez capable, OK? Avec une bonne technique, je suis sûr que vous seriez capable. Ça prendrait peut-être un petit peu de pratique, OK?
Oui.
Parce que moi, avec deux mains, j'y arrive pas. Par contre, avec un petit peu de pratique, du tape.
Non, mais il y a peut-être comme coiffeuse où je me ferais pas confiance.
Moi non plus. Coiffeuse, ça serait croche, là. Ça serait clairement croche.
Ça, je comprends, mais c'est ça. Il y a tellement d'autres métiers qu'on peut faire avec un bras, malgré tout. Fait que...
Ben, il y a des façons d'adapter pour que ça fonctionne. De toute façon, et j'y venais, dans votre vie, vous avez toutes sortes d'adaptations, là, parce que vous n'êtes pas cuisinière, mais vous faites la cuisine. Donc, tu sais, vous n'êtes pas femme de ménage, mais vous faites le ménage chez vous. Là.
Exactement.
Donc, en tous les cas, il faut être capable d'avoir différentes façons de faire pour que vous soyez le plus autonome possible là, et que vous n'ayez pas besoin, ou le moins possible, de gens chez vous pour venir vous aider. Parce qu'effectivement, bon, il y a moyen d'avoir des services pour pallier à certaines tâches que vous faites plus difficilement, mais quand même, les services, on en a assez peu, là, OK? Donc, c'est pas possible d'avoir quelqu'un là, 24/7 à la maison. Donc, il faut essayer de réduire les tâches avec lesquelles vous avez besoin d'aide là, et être capable d'être le plus autonome possible, ne serait-ce que d'ailleurs pour vous, là, pour votre bien-être, pour votre satisfaction personnelle, d'être capable de faire la majorité de vos tâches par vous-même. Par contre, je le disais, vous devez avoir des adaptations. À quoi ça ressemble votre quotidien, votre appartement?
Bien, je dirais qu'il n'y a pas tant que ça d'adaptation. C'est sur le petit banc. C'est un must. Pour atteindre le four, pour atteindre les armoires en hauteur, même si de façon générale, genre, je mets pas grand-chose dans les armoires en hauteur. Je dirais que si vous cherchez dans les armoires en hauteur, vous allez trouver que c'est de la poussière.
Oui, et les affaires qu'on prend jamais, là.
Oui, c'est ça. Ou qu'est-ce que mon chum a de besoin. Ouais. Sinon, c'est ça. Donc, le petit banc me m'aide quand même pour laveuse-sécheuse, le four, à atteindre à être de taille plus normale, en normes, pour tout ça. Sinon, c'est plus au niveau de la, exemple, mes ustensiles. Donc, fourchette, cuillère, ils ont 2 trous et une taille rap. C'est difficile à imager, mais en gros, c'est un fonctionnement qui fonctionne que mon
les
père.
Les tape aussi, là, c'est ben, du tape et des tape wrap. On fait pas mal de choses avec du tape et des tape wrap. Moi, chez moi, si ça se règle, ça se règle probablement avec du tape et des tape wrap.
C'est surtout que ça coûte rien.
Oui.
Je veux dire, moi, j'achète des fourchettes au Dollarama. Il y a quelqu'un avec une drill qui me fait deux trous. J'ai mis une tape wrap. Au total, ça m'a coûté quoi? 4 $. Ça n'a pas prix de main-d'œuvre particulière. Puis si je la perds, si je l'oublie chez quelqu'un, je l'oublie au restaurant, ben il n'y a pas mort d'homme.
Non, on vous en fait un autre, mais j'imagine que votre père, par définition, oui, est devenu un gosseux national. Là.
C'est sûr.
C'est-à-dire, il doit toujours trouver, j'imagine, là, des façons de vous patenter quelque chose pour que ça fonctionne. J'imagine qu'il a fait ça depuis que vous êtes enfant. Là.
Ben oui, sûrement depuis que je suis née, probablement. Justement, les ustensiles, c'est un bon exemple. Il y avait des ergots qui venaient à la maison avec plein de propositions à des milliers de dollars. C'était gros, c'était encombrant, c'était cher. Rien de pratique qui rentre dans une sacoche. Puis,
oui, parce qu'il faut y traîner pour aller au restaurant. Là.
Ben c'est ça. T'sais, quand j'étais enfant, c'est mes parents qui le faisaient. Mais là, le but, c'était qu'un jour, je puisse les traîner, que ça rentre dans un véhicule. Non, mais j'exagère.
Oui, on s'entend.
J'exagère, mais tu sais, ça reste que c'était toujours trop encombrant. Puis, j'aimais pas ça marchait pas. Un jour, mes parents se sont tannés, justement, mon père, puis il a fait, tiens, il me l'a plié. À l'époque, la technique, c'était de plier l'ustensile. Fait qu'il a juste plié la fourchette en deux, puis j'ai rentré mon doigt, puis j'ai mangé dedans.
Tout ça pour ça, hein?
Ouais. Puis ça coûte rien. Puis encore là, le nombre de fois où j'ai oublié ma fourchette en allant au restaurant, qu'est-ce qui se faisait? Mon père partait aux toilettes un petit 2 minutes, il allait dans la toilette, il courbait la fourchette. En repartant, il a décourbé, ni vu ni connu. Saint-Hubert s'en est jamais rendu compte.
Saint-Hubert s'en est jamais rendu compte. Vous avez jamais reçu de poursuite à la maison?
Non. Non, je...
Et, ben donc, vous n'avez même pas des comptoirs adaptés. Vos comptoirs sont de façon standard.
Oui.
Vous y avez décidé parce que c'est plus simple comme ça, donc de ne pas avoir d'adaptation à la maison et de ne pas attendre des délais pour avoir des adaptations ou parce que vous n'en sentez pas le besoin?
En fait, plus parce que j'en sens pas le besoin, mais aussi parce que ben je suis en appartement. Je veux dire, après la journée où je vais acheter une propriété, acheter une maison, peut-être que j'envisagerai certains trucs, considérant que je vais y rester des années, que ce sera ma maison.
Oui.
Je pourrais, tu sais, faire adapter des trucs qui vont en effet simplifier ma vie. C'est sûr que je vais le faire, même si c'est pas nécessaire. Ça, c'est tout le temps des trucs qui peuvent simplifier.
Oui.
Mais c'est ça, pour l'instant, tu sais, c'est pas nécessaire. Je suis pas non plus la plus grande cook au monde. Je passe pas des heures et des heures dans la cuisine. T'sais, fait que je vais avec les moyens du bord, puis ça le fait.
Deux pizzas pochettes, là, puis on est
moi,
pas
pire. Moi, je suis plus
pogo. Ah, ouais?
Oui,
non,
ouais,
moi,
ouais.
Je suis plus pizzas pochettes. Mais... En tous les cas, l'important, c'est de pas mourir de faim.
Oui, c'est vrai.
Et au quotidien, en fait, là, comment vous vivez avec votre handicap? Parce que c'est quelque chose qui vous dérange d'être regardé. Vous avez dit là, tout à l'heure, c'est sûr que vous êtes tiré attention. Est-ce que c'est quelque chose qui est lourd à porter là, quand on fait nos emplettes? Hein?
Ben c'est sûr que si t'es fatigué,
oui,
tu veux
t'as
passer
une mauvaise journée, ouais.
Ça arrive pas. Mais dans ce temps-là, j'aurais envie de me dire, ben sors pas. T'sais, si j'ai pas envie d'être sociale, ben je vais juste rester à la maison. C'est un peu ça, le fait d'avoir en fait d'avoir un visage connu, c'est ça. Je trouve que c'est un prix social à payer. J'ai voulu m'exposer. Puis après ça, oui, je me suis toujours fait reconnaître, même avant d'être connue, dans le sens où par mon handicap. C'est sûr que là, les gens venaient pas me parler. Ils me regardaient de loin.
Oui, c'est ça. Ils vous regardent. Ils pensent que vous les voyez pas, non? Alors
c'est ça. Que
c'est très clair qu'on les voit. Là, moi aussi, ils me font ça.
C'est très subtil. Mais en fait, moi, ça me dérangeait pas. Quand j'étais jeune, je me disais, ah, ils doivent me regarder parce que j'ai des beaux cheveux.
Ah oui, ça doit
être
ça.
Je sais pas. Non, mais tu sais, je me disais, ah, j'étais dans ma petite bulle, puis tu sais, après ça, je comprends, là. Moi aussi, j'ai déjà vu des gens qui ont des différences physiques. J'ai déjà vu, je me souviens, chez Tic Géant, une dame qui est rentrée puis qui était brûlée. Puis si vous saviez à quel point ça me démangeait d'aller demander qu'est-ce qui s'était passé, mais tu le sais pas. Puis tu sais, mais je veux dire, je la regardais du coin de l'œil, puis j'étais sûrement pas subtile, puis sûrement qu'elle m'a vue. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, là.
Ouais,
donc,
effectivement.
Évidemment, je me mets dans la place des gens, puis j'ai compris, là, d'être curieux, puis je leur en veux pas.
Puis il y a pas nécessairement, là, vous l'avez dit tout à l'heure, pas nécessairement de méchanceté par rapport à ça. Parfois, par contre, ça peut être un peu moins bien apporté par les personnes. Des fois, ça manque un peu le...
De tact.
Oui, voyons, ça peut être un peu maladroit. Donnez-nous des exemples de choses que les gens vous ont dit qui avaient pas vraiment de bon sens, mais qui serait drôle là, pour le bien de notre épisode.
Récemment, justement, je pense la semaine passée, on m'a couru après pour me toucher.
Hein?
Pour toucher la rectification. Là, ça fait bizarre d'une même. Mais pour toucher mon bras gauche, mon mignon.
Ah!
Donc, c'est quelqu'un qui m'a reconnu des réseaux sociaux et qui m'a demandé. Mais tu sais, ils l'ont quand même demandé. Au moins, ils n'ont pas juste touché. Donc, j'ai dit oui. Parce qu'après ça, je trouve ça bizarre de dire non. Ben, tu sais, ça me dérange pas, tu me touches, mais ouais. Je veux dire dans le sens où ça.
Ouais, votre mignon, ça va, là.
C'est pas, comme, oui. Ouais. Mais je sais pas, les gens doivent penser que c'est pas la même texture de peau que de la peau normale, mais je vous jure, c'est la même chose.
Je sais pas, j'ai pas réfléchi jusque-là. Écoutez, mais, on s'appelle.
Ça fait beaucoup de. Oui, non, c'est ça, des choses comme ça. Les gens veulent aussi, ils vont me tapoter la tête. Okay. Des fois, c'est un peu, là, c'est comme bah.
Parce que vous êtes de plus petite ouais. taille, donc, OK.
Ils comment, ont comme okay. le réflexe. C'est pas méchant, mais ils vont tapoter ma tête, un peu comme un bichon maltais.
Oui, c'est ben voilà, que... c'est un peu. Oui, voilà.
C'est juste, c'est comme, ben. Surtout quand t'es une fille, je pense, tu veux pas te faire toucher les cheveux. Je me suis peignée aujourd'hui, ouais, tu sais. C'est comme quand on était jeune, puis quelqu'un nous mettait les doigts dans les cheveux, puis on avait de la statique. Sinon, les gens vont aussi, ben, beaucoup se pencher, s'accroupir.
Oui.
Mais tu sais, ça aussi, c'est
ça
correct.
Ça part de bonne foi.
Ben oui, parce qu'ils veulent pas me prendre de haut, puis comme qu'on peut se regarder d'yeux à yeux un peu, parce que quand les gens sont penchés, ils sont plus de ma grandeur. Mais au final, moi, ça me dérange zéro. Là. Même si tu fais 6 pieds 8, puis qu'on tu restes debout, ça va pas m'offusquer.
Et puis, est-ce que vous avez l'impression que des fois, les gens vous infantilisent à cause de votre handicap? Moi, je sais que j'ai beaucoup ça. Là. Les gens pensent possiblement que j'ai une déficience intellectuelle ou que quelque
vrai.
Chose de ça. Oui, oui. Quelque
fait
chose
que là, ils font quoi?
Ah, ils me parlent lentement. ils me parlent lentement. Ils choisissent des mots simples. Ils me disent souvent « Où est ta maman? »
Ah
là,
non!
Je fais, non, ma maman, elle n'est pas là. Non. Oui, oui. J'avais un voisin, salutations à mon voisin, mais j'ai écrit sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, mais mon voisin, ça fait 2 ans que j'ai acheté ma maison. Ça fait 2 ans qu'il me parle comme si j'étais, comme si j'avais une déficience intellectuelle. Et, c'est pas grave d'avoir une déficience intellectuelle, c'est juste que j'en ai pas.
Mais est-ce que tu y as dit?
Ben, en fait, c'est, tu sais, moi, je savais pas trop comment lui dire ça. Tu sais, en deux phrases, vous savez, j'ai pas de déficience intellectuelle. Je savais pas trop comment lui.
Ben, je pense qu'il faut.
Je savais pas trop comment lui apporter. Donc, là, ma mère a pris ça en charge. Elle lui a dit que j'avais pas de déficience intellectuelle. Mais, il venait me voir pis il disait, où ta maman? T'sais, parce que ma maman, elle est pas ici. Vous avez besoin de quoi? T'sais, la maison m'appartient. Je suis quand même propriétaire là, de l'hypothèque. vous avez besoin de quelque chose? T'sais, comment je peux vous aider? Mais on voyait, ça fait ça, me parier très lentement, me demandait où est ma mère. Donc oui, ça arrive souvent. Transport adapté, une fois, m'a demandé où était ma mère. Et j'habitais à Montréal, j'habitais seule. Ma mère était dans les Laurentides. Et là, elle voulait pas m'embarquer parce qu'il n'avait pas le consentement de ma mère. Alors qu'à ce moment-là, j'avais probablement 27-28 ans. J'étais au doctorat.
Oh,
et là, il a fallu que j'aille voir une voisine qui se dit, regarde, dis-lui que t'es ma mère parce que là, faut que j'embarque, faut que j'y aille. Hein. J'ai quelque chose. Quand je fais venir le transport adapté, c'est parce que j'ai un événement. Là. Je me souviens plus où j'allais, probablement à l'université, mais j'ai dit, écoute, fais-toi passer pour ma mère parce que là, on n'y arrivera pas. Et elle s'est fait passer pour ma mère. Puis elle a dit, oui, on peut embarquer. Isanne, bye bye, bonne journée. À tantôt, ma belle. Là, c'est bon. Et là, ça a passé, mais oui, ça arrive souvent.
Ah, wow,
que les gens passent. Vous,
bon.
Ça vous arrive pas? Que les
bon.
Gens vous infantilisent?
Ben, là, pas à ce point-là. J'avoue que ça, c'est quand même un bon exemple. Ben, tu sais, mais non, je suis.
C'est peut-être moi.
J'ai peut-être pas d'exemple concret. C'est sûrement déjà arrivé plusieurs fois. Mais. Non, pas dans ce de sens-là. Ben, tu sais, les gens, c'est ça, ils vont dire qu'ils vont trouver que je suis petite. Mais je pense que rapidement, ils se rendent compte que je suis pas un enfant, je suis la taille d'un enfant. Mais, tu sais, puis pourtant, j'utilise là, ça, je paye pour enfants au cinéma, mais il faut pas que je les regarde dans les yeux parce que sinon, ils voient que, comme, j'ai pas
le
temps,
là. T'sais. Non, c'est vrai, il faut regarder par terre.
Oui, tu regardes par terre.
Ça a quand même des avantages. Juste.
Tu donnes ton billet à ton ami, là, c'est mon ami, mettons, qui, moi, je regarde par terre, qui donne le billet, ça fonctionne. Mais il faut pas qu'il voit que j'ai des fossiles, puis.
Non, c'est ça.
Sinon, il trouve que je suis mature pour mon âge.
Faut pas trop se maquiller ce jour-là. Il faut regarder par terre. Mais quand même, hein, ça a quand même des avantages hein, parmi d'autres.
Oui.
Puis nous, on utilise ça là, pour être les premiers à aller s'asseoir dans la salle là, quand il y a une grande première de film là, que tu sais qu'il n'y aura pas de place.
Ouais.
J'utilise ça là, avec un ami là, pour rentrer en premier. Là, puis la personne fait semblant que j'ai besoin de beaucoup de soutien pour rentrer dans la salle, me tient et tout ça. Ça marche très bien aussi là, pour les cinémas. pour ceux qui écoutent, prenez des notes.
Oui.
Donc oui, effectivement, c'est des choses qui arrivent. Là, ça ou pour changer tes places là, dans un spectacle parce que t'es pas assez à bonne place. Là.
Ah ouais?
Oui, j'ai fait ça dans un spectacle.
Ça, j'aurais dû des fois parce qu'il y a des gens qui sont devant moi beaucoup plus grands. Puis là, ils me cachent la vue pour pour de vrai?
Non, j'ai fait pire que ça, moi. J'étais à un spectacle de Pink, puis je m'étais pas rendu compte que j'avais... Parce que, je lui ai dit, j'ai aucun sens de l'orientation. Je m'étais pas rendu compte que j'avais acheté des billets en arrière de la scène. OK? Puis qu'il y avait un, il y avait un rideau noir.
Mais là... Okay?
Fait qu'on voyait littéralement rien. Il y avait vraiment un écran. Tu regardais le show sur l'écran et plusieurs centaines de dollars pour ces billets-là. Et là, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte de ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai au prix que j'ai payé que je vais regarder un rideau noir. J'en ai un chez nous, là.
Ouais.
Et là, j'ai dit à mon ami, dis rien. Laisse-moi faire. Puis là, elle n'a jamais voulu en mentir. Puis elle n'a pas été là-dedans du tout. Puis elle dit, moi, ça me dérange pas. Si tu dis quelque chose, on est prêt en arrière des rideaux. Fait que là, tu dis rien, tu me laisses aller. Et là, je suis allée voir la dame. J'ai fait le tour là, du Centre Bell. Je suis allée voir la dame. J'ai dit, écoutez, je vais avoir besoin d'un endroit pour passer en situation d'handicap. Mes billets sont pas adaptés. J'ai des billets normaux alors que j'ai besoin de billets adaptés. Puis elle m'a dit, oui, il y en a dans votre section là-bas, derrière le rideau. Puis elle dit, oui, mais là, j'ai mal, je vais pas y retourner. C'est trop loin, j'ai pas de fauteuil roulant, donc est-ce que je peux aller dans les endroits pour passer en situation d'handicap, mais de ce côté-ci, ça a passé, il a fallu que je négocie un peu, mais ça a passé.
Ouais, j'étais dans les
endroits, oui,
ah,
j'étais
Dieu.
Dans les endroits pour passer en situation d'handicap en avant du stage. Les endroits pour passer en situation d'handicap au Centre Bell, par contre, sont derrière, sont loin, mais quand même, j'étais pas en arrière du rideau. Donc, ça m'a servi, puis mon ami, je peux pas croire que t'as fait ça. Je peux pas croire, t'as fait ça. Oh, ils ont tiré bien, ils ont pas. C'est ça, tu sais rien. Mais oui, ça m'a servi. J'ai fait ça.
Mais tu sais, en même temps, les gens pourraient penser qu'on abuse, mais je pense que c'est des privilèges qu'on. Tu sais, c'est pas de l'abus, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même plus complexes dans notre quotidien pour différentes raisons. Puis à un moment donné, quelqu'un me dirait, hey, tu crosses le système, désolé de mon langage. Ouais. Je répondrais que non. Je veux dire, c'est comme si je te dis, je vais prendre l'ascenseur. Oui, je suis capable de les prendre les marches, mais pourquoi? Je veux dire, j'ai un handicap, c'est plus brûlant pour moi, c'est plus fatigant, c'est plus épuisant. Pourquoi je prendrais les escaliers quand je peux prendre l'ascenseur? C'est tout le temps des moyens comme ça. Oui, j'ai une vignette pour un stationnement handicapé parce que j'y ai droit. Puis je serais capable de me stationner à l'autre bout, mais je serais brûlée.
Ouais,
je serais brûlée après. Fait que c'est toutes des choses comme ça que ça simplifie la vie. C'est pas des nécessités, mais ça existe. Pourquoi on n'y aurait pas droit? Puis le reste, ben quand on en profite un peu... Je veux dire, après, c'est un peu comme le slogan pour les vignettes pour handicapés. Là. Si vous voulez ma place, là, prenez mon handicap, tu sais.
Puis en même temps, je veux dire, on n'enlève rien à personne non plus. Dans le cas des billets, par exemple, il n'y avait personne à cet endroit-là. Donc, on n'a pas déplacé personne. Non, on a juste pris la place. Donc, il n'y a personne qui a perdu ses billets à cause de moi. Puis tout le monde a pu voir le spectacle. Donc, tant mieux. Mais oui, il faut avec tout ce qu'on vit, il faut quand même avoir des petits avantages.
Ouais,
à l'occasion, ça marche. Puis ça, on apprend à négocier quand même jeune. Là, on est des bons négociateurs. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça pète. C'est comme ça. Aussi du fait, là, Charlie, que vous éduquez les gens malgré vous, parce que effectivement, les gens vous posent des questions, vous avez des vidéos qui sont peut-être plus éducatives. Est-ce que c'est une responsabilité qu'on a en tant que personne en situation de handicap d'éduquer les gens?
Je pense que d'une certaine façon, ben comme tu viens de le dire, malgré nous, oui, je pense que oui, parce que bon, ne serait-ce que quand on répond à des questions au centre d'achat ou des amis ou peu importe qui, on les a éduqués d'une certaine façon. Donc oui, forcément, je sais pas si ça fait plaisir à tout le monde qui a un handicap. Moi, j'y vois absolument aucun problème, ça me fait plaisir. Je préfère ça plutôt que le parent qui va tirer son enfant puis qui va dire chut, arrête de crier.
Oui.
Comme arrête de pointer du doigt. Non, tant qu'à ça, apporte-le, viens me voir. Justement, les enfants ils ont pas de filtre. C'est une belle naïveté. Eux, ils font pas, justement, sont pas capables d'être subtils puis de regarder du coin de l'œil quand on est de dos.
Oui.
Eux, ils le font devant nous. Puis c'est exactement ça qu'on perd en devenant adulte.
Oui, puis ils parlent fort, hein.
Oui. Puis c'est vrai que ça gêne les parents. Puis je veux dire, j'ose, tu sais, c'est sûr, là, des fois, ça a pas de filtre, mais on le sait tout, c'est quoi d'être un enfant, puis on sait tout, c'est quoi. Puis je veux dire, moi, je veux dire, c'est le meilleur exemple. Amenez votre enfant. Ça va me faire plaisir de répondre à ses questions. C'est sûr que je parlerai pas de l'avortement. Comprends-tu quand ils ont 5 ans? Mais tu sais, ça va me faire plaisir de le dire que j'ai pas poussé dans le ventre de ma maman, là.
Puis clairement, c'était, moi aussi, je vois ça comme étant positif quand les enfants posent des questions. Puis j'aime beaucoup quand les parents font « ben oui, regarde, on va lui demander mm-hmm. ». J'aime beaucoup cette approche-là et je trouve qu'on a cette approche-là de plus en plus. Mais quand même, je peux comprendre aussi, vous l'avez dit, je peux comprendre aussi que les parents, ça peut se gêner, ils veulent pas faire de faux pas. On essaie tous de bien se conduire en société autant qu'on peut. Mm-hmm. Mais effectivement, le fait de demander poliment, je trouve ça quand même là moins gênant. En tout cas pour moi, que d'entendre des commentaires là, sans arrêt, alors que personne ne pense que je les entends pas, tu sais, puis que je ne sais pas trop comment réagir quand j'entends quelque chose que je ne suis comme pas supposée entendre. Là. Mm-hmm. Est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas? Moi, pour moi, c'est toujours de ne pas savoir quoi faire. Donc, quand on pose la question directement, moi, je sais qu'il faut que j'intervienne, je réponds à la question. Mais est-ce que ça devient lourd parfois de justement d'avoir toujours à faire cette éducation-là malgré vous?
Non, je pense pas que c'est devenu lourd à un moment ou à un autre, parce que bon, de toute façon, c'est pas à tous les jours non plus, dans le sens où, tu sais, c'est ça, je le fais sur les réseaux sociaux, ça me fait plaisir, puis dans la vraie vie aussi, j'ai vraiment aucun problème à répondre aux questions, les gens sont fort originaux, puis de toute façon, je le dis toujours, je donne au défi aux jeunes de me poser une question qu'ils m'ont jamais posée.
Non, mais ça, clairement, oui, moi aussi.
Ça, on me dit tout le temps la même chose, mettons quand quelqu'un devient à l'aise, ils vont me dire, je veux vraiment pas te vexer, non, mais je veux vraiment pas que tu le prennes en... Oui, accouche, oui. Oui, c'est bon. OK? C'est quoi ta question? Puis là, ils vont poser leur question. Puis tu sais, ils pensent que c'est la première fois que je l'entends.
Oui, oui, clairement, on a déjà entendu. C'est comme les blagues qu'ils font sur nous. Les blagues, on les a tous déjà entendues.
Ben, ça, je serais curieuse, moi.
Mais moi, tu sais, avec un fauteuil roulant, par exemple, ou avec mon quadriporteur, de fais pas d'excès de vitesse, tu vas avoir un ticket. Tu sais, ils pensent tout le temps que c'est la première fois que je l'entends toutes les semaines. On s'entend.
Ah oui?
Ben oui, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui me dit ça, tout le temps. Donc ça
bon,
vient
j'avoue
avec.
Qu'on m'a souvent dit ça t'a-tu coûté un bras.
Oh! Elle est bonne
en fait,
quand même.
Ça, c'est
elle bonne
bon.
Quand
mais
même.
En fait, ça, c'était au festival Oshiaga cet été. J'étais de dos à un homme, pas de main, qui est arrivé, mais je l'ai pas vu venir. Puis il m'a juste fait un genre de prop sur le bras. Le temps que je me retourne, il dit « Toi aussi, ça t'a coûté un bras. » Mais genre, lui aussi, il manquait une main, tu sais.
Oh, ça, c'était quand
là,
même
j'étais comme « Wow! » Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est... Puis il est parti, là, on n'a pas parlé.
Ah, oh, OK, oui.
C'était comme, OK, wow, là, c'est bon, là.
Mais c'est quand même bon, oui, effectivement, c'est quand même bon. Puis en même temps, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. À un moment donné, on choisit pas la vie qu'on mène. On choisit ce qu'on en fait, mais on choisit pas notre condition. Fait qu'effectivement, il vaut mieux en rire. Pour nous, c'est beaucoup plus dédramatisant de faire ça comme ça que de se morfondre de notre côté. Mais est-ce que quand même vous attirez les regards ou les commentaires? Vous êtes entre autres en couple avec quelqu'un qui n'a pas l'handicap. Est-ce que ça fait réagir?
Je pense que les gens sont agréablement surpris. En fait, parce que ça brise le fameux mythe de handicapé va avec un handicapé.
Oui.
Tu sais, ou personne de couleur va avec une personne de couleur. Là, on n'est plus là.
Non, on est en 2024 et on va quand même évoluer. Hein,
mais... Les genres, les sexes, les nationalités, on peut. Tu sais, tout le monde est mélangé. Fait que, je veux dire, les gens sont juste agréablement surpris, puis souvent, ils sont comme, ah, ben, cool, c'est mignon, toi aussi, tu peux te faire aimer.
Oh,
comme,
wow.
Ben, oui.
Regardons
ben, oui.
Ça.
C'est ça.
Surprise.
Mais non, mais il n'y a pas eu de commentaires négatif, en tout cas pas à ce que je cherche. Les gens sont juste, se trouvent ça beau puis ça donne de l'espoir. Puis mon chum, je pense que le un peu sans faire exprès, il donne un bel exemple aussi à d'autres qui sont comme « Pourquoi on s'arrêterait à la différence physique? »
Oui, bien effectivement, puis ça donne effectivement matière à réflexion, c'est-à-dire que votre copain, là, s'est pas arrêté à votre différence physique, là. Si je me trompe pas, là, vous a vu dans un endroit public, là, puis quand même venu vous parier parce qu'il vous trouvait votre goût, là, malgré le fait qu'il a bien vu, là, mm-hmm. que vous aviez des différences, mais il est clairement passé par-dessus, là.
Oui.
Je pense que dans la plupart des cas, là, je dis ça sans étude, là, à l'ère d'Internet, là, je veux dire, on va dire notre différence après avoir commencé la conversation, avant la première date, dire OK, oui, on va aller prendre un café, mais en tout cas, moi, c'est comme ça quand ça fonctionne. Il faut que je te dise, j'ai une situation handicap, j'arrive avec un chien, tout ça. Moi, je le dis avant qu'on se voit la première fois, mais il y a quand même eu toute une conversation où je ne l'ai pas dit, alors que votre conjoint, lui, vous a vu avec vos différences, puis il a fait « Ah, ben tu sais, je la trouve belle, donc je vais lui parier quand même. » Et ça, c'est quand même quelque chose de... Moi, j'ai trouvé ça très, très mignon de savoir ça. Puis effectivement, ça montre que, bon, il y a des gens qui en ont rien à faire, là, que vous ayez des différences physiques, puis qui sont tout à fait capables de passer par-dessus ça, même dans un court instant. Lui n'a pas pensé à tout ce que ça impliquait. C'est juste dit « Bon, ben j'aime bien, t'as l'air gentil, tout ça, je vais aller lui parler. » Effectivement, on dirait que des fois, je complique la vie pour rien, alors que ça a été simple dans son cas-là.
C'était l'effet de l'alcool.
Oh, non, c'était l'effet de l'alcool.
Mais non. Le lendemain, imagine, il est comme « Ouh, excuse-moi, je pensais que t'avais tous tes doigts. » Non.
Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé tes doigts?
Oui, c'est ça, il est comme « On a-tu eu un accident, quelque chose? » Non, 100%, puis c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment beau. C'est sûr que moi aussi, lorsque j'étais célibataire, les plateformes de dating, c'était pas l'idéal. Parce que vient exactement un peu le même dilemme où, en fait, oui, moi, clairement, mon handicap paraît. Mais je pourrais mettre des photos où je suis coupée, on voit juste en haut de la poitrine le visage. Tu sais, ça se fait, il y en a des gens qui font ça. Puis là c'est, ça voudrait dire que les gens pensent que j'ai pas d'handicap. Donc là, c'est soit l'option de le dire comme tu fais dans la conversation lorsqu'on apprend à se connaître, ou de ne pas le dire et de faire une surprise à la date.
Mais non, la surprise, ça, c'est pas bon.
J'ai dû le faire. Dû le faire parce que moi, souvent... Le problème que j'avais, là, début vingtaine, c'est que justement, je matchais avec des gars. Là, mettons un gars, on se parle pendant plusieurs jours, là, vraiment. Puis là, viens, là, on va se prendre un café. Puis là, j'étais dans un gros dilemme, est-ce que je lui dis ou non? Puis ça faisait plusieurs fois où je le disais, j'expliquais. Mais en texto, c'est difficile, même en envoyant des photos. Tu sais, les gens, ils ont comme peur. Puis là, ils te répondent, ah, ça fait aucun, ça me dérange vraiment pas. Mais le lendemain matin, t'es on match.
Ouais, puis oui, il dit oui, on va aller, moi ça m'est arrivé dernièrement, oui, on se voit, on va à telle pièce, puis je présente juste pas là.
Moi je m'étais jamais rendue là, mais vraiment le lendemain matin, j'avais plus de match, puis plus de signe de vie. Fait qu'à un moment donné, j'étais tannée, j'ai dit fuck off. Désolé mon langage. Je sais que ça va arriver encore, j'ai le feeling que ça va arriver encore, donc je vais pas le dire. Puis je vais voir ce que ça donne. Ça va sûrement être extrêmement stressant et malaisant. Et ça l'était. Toute la journée, j'ai voulu lui dire. On avait une date le soir. Puis finalement, j'y ai pas dit. Puis là, j'étais stressée.
Comment ça s'est passé, finalement?
Bien, j'ai vu la terreur dans son regard. En fait, la surprise. J'ai vu la surprise. Il aurait pu s'enfuir. Je n'aurais pas tenu rigueur.
Non.
J'aurais compris, là. Hey, sérieux, j'aurais vraiment compris. Mais il est resté. Puis, tu sais, après quelques verres, on a enlevé le malaise. J'ai expliqué que, écoute, je suis désolée. Le but, c'était pas de te piéger ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que, moi, ça fait des mois et des mois que, tu sais, c'est toujours la même situation qui se répète. J'étais tannée. Donc, puis justement, en vrai, on n'a jamais eu de problème. T'sais, j'ai souvent eu plus de facilité à me mettre en couple avec quelqu'un que j'ai rencontré en vrai.
Ben, en fait, en vrai, quand ils te voient en vrai, en tout cas, de mon côté, ils font pas, c'est pas si pire que ça.
T'sais. Ben, c'est ça. Puis ils sont. Oui, c'est ça, parce que comme je disais, c'est ça, en texto, en photo, c'est difficile. Les gens sont comme, OK, mais t'es petite, mais là, ça implique quoi, mais on ne sait pas. C'est trop complexe, dans le sens où, en vrai, tu vois le vibe.
Faut faire des
choses. Oui, les choses sont telles que telles. T'es comme, OK, il manque tel bout, let's go, on le fait.
Effectivement, c'est pas comme ça que je réfléchis, mais. J'avoue que ça met des défis ailleurs, mais quand même, au moins, ça évite ça, de t'en aller sur une date où la personne ne se présente pas. Et de en même temps, moi, je me dis, bon, si on va quand même à une date, si me dit oui pour aller à une date, au moins, tous ceux qui ont arrêté de me répondre, ils ne valaient pas la peine. Donc, je me suis pas déplacée sur une date.
C'est quoi le pourcentage des personnes qui vont à la date, qui proposent une date après? Est-ce qu'il est plus élevé que ceux qui choquent?
Non.
Mais c'est souvent ça qui arrive. J'étais dans la même situation.
Clairement.
Fait que c'est ça qui est plate. C'est qu'à un moment donné, c'est dur sur la confiance.
En même temps, ces gens-là, si ils sont aussi peu ouverts à la différence, ça ne marchera pas.
Ouais. 100%, mais peut-être que dans un autre contexte, que cette personne-là, tu l'aurais rencontrée en vrai, qui, comme tu dis, aurait fait « Ah, c'est pas pire », ça aurait été différent. Mais là, c'est tellement difficile, tu sais, ils se sont enfuis, puis on leur en veut pas. Mais c'est dur sur la confiance, c'est plate. On sent que c'est un peu comme du rejet.
Ouais.
C'est plus difficile pour nous que pour des personnes qui ont toutes leurs membres ou qui n'ont pas de différence. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'en suis venue à l'idée de ne pas le dire.
Tu l'as fait juste une fois ou tu l'as fait plusieurs fois?
Bien, je l'ai fait, je pense, deux fois.
OK.
Mais c'était quand même extrêmement stressant.
Oui, oui, c'est stressant. Je peux comprendre que c'est stressant.
C'est quand même stressant, mais sinon, je l'ai dit. Puis, tu sais, après ça, je veux dire, de rencontrer en vrai, ça reste quand même la meilleure façon. Toutes
oui,
les relations...
Ben oui, clairement, quand ça marche en vrai, moi, ça m'arrive pas. Je sors peut-être pas assez chez moi. peut-être qu'il faut que je sorte plus. Ça m'arrive pas souvent, en vrai. Ça m'est pas arrivé souvent, en vrai, d'attirer... je m'en ai dit d'attirer l'attention. J'attire toujours l'attention. mais je veux dire, d'attirer quelqu'un qui vienne me voir parce que je lui plais. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé souvent en vrai. On dirait que sur par Internet, j'ai plus sa twist. Hein. Je suis plus drôle. Je suis plus drôle par exemple.
mais non, t'es vraiment drôle en vrai aussi. Je
non, mais j'ai pas beaucoup. Peut-être parce que je suis plus gênée. En vrai, moi, aller voir quelqu'un en vrai, je le fais pas.
Mais ça aussi, ça peut fonctionner, mais ça, pour moi, c'est le même conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'a pas d'handicap ou qui n'a pas de différence. Tu sais, les hommes pensent encore aujourd'hui, bien là, je parle pour les hétérosexuels, mais en fait, n'importe qui, on a souvent la fausse croyance encore que c'est aux hommes de faire les premiers pas. C'est lui dans un bar qui va venir te voir pour te proposer, mais fais le contraire, déstabilise-le. Tu sais, va, toi, il en paye un verre. Il va être à tes pieds.
C'est ça. Non, j'ai pas encore cette confiance.
Mais non, mais il faut un petit boost, j'avoue, là, tu sais, parce que surtout moi, là, imagine, si je faisais 5 pieds 4, là, peut-être que j'aurais un concept de confiance de plus. Là, imagine-moi, à terre, tu sais, mettons, on est dans un bar, je suis à la hauteur du bar, du comptoir.
Ouais, c'est ça.
Fait que, tu sais, de faire comme toc, 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 excusez-moi, monsieur, voulez-vous un verre? Ouais. Tu sais, c'est sûr que ça peut être plus complexe, là.
Quand même.
C'est une bonne technique à essayer.
La seule fois que j'ai fait ça, c'était dans un avion, il était captif, il pouvait pas s'en aller. Ça a bien été.
Tu as fait quoi? Il était assis à côté de toi.
Je suis allé m'asseoir à côté.
Puis tu as dit, salut, t'es beau?
Pas salut, t'es beau. J'ai commencé à lui parler comme salut. Il y avait un garçon qui tapait, un jeune homme qui tapait dans mon siège. On était en arrêt parce qu'on attendait des passagers. Là, c'était en escale, mais en escale où on reste à l'intérieur de l'avion. Puis là, tu passes 2 heures assis dans l'avion. Puis il y a un petit qui tapait dans mon siège, puis sa mère trouvait ça drôle. Elle a sa femme, à moi, ça me donne des maux de dos importants. J'ai mal au dos déjà, là, donc de me faire taper dans le siège. Donc à un moment, on s'est regardé, il a vu que je me faisais taper dans le siège sans arrêt, puis que j'étais sur le bord de slugger un enfant, ce que j'ai pas fait, parce que je sais vivre, là, tout le monde. Mais donc, j'ai profité du regard, je me suis levé, je me suis assis à côté, puis j'ai dit, bon, ben je vais m'asseoir ici, parce que visiblement, l'enfant a pas fini de taper dans mon siège. Allô, comment ça va?
Puis est-ce que ça a donné quelque chose après
l'avion? Non, ben après quelques. On a eu une grosse conversation. Je suis restée avec lui pendant les heures du voyage, mais pendant la conversation, il m'a dit qu'il était marié et qu'il avait un conjoint et des enfants. Ça s'est fini là.
Je comprends.
Mais j'ai quand même essayé. Mmh. C'est vrai. La seule fois où j'ai eu courage parce que justement, je me suis dit, bon, je le reverrai jamais. Là, fait que, c'est là ou jamais. Puis j'avais l'enfant qui me tapait dans le banc. Là, fait que je me suis dit, bon, à la limite, il va juste me sauver de l'enfant qui tape dans le banc parce que je suis plus capable.
Mais tu sais, même pour quelqu'un qui n'a pas de diversité. De
différence, c'est difficile quand même, oui.
Puis tu sais, les réseaux sociaux, puis pas les réseaux, mais les plateformes de dating sont difficiles pour tout le monde. C'est dur, là, c'est un catalogue, là.
Oui,
je veux dire, ça, je l'ai souvent dit, quand t'as un catalogue Sears de belles personnes avec tous leurs membres devant toi, puis que t'en vois un de temps en temps qui a une déficience ou un handicap, tu vas-tu choisir?
Non, clairement pas.
Tu sais, celui en chaise roulante, il pourrait épongre moins. Mais oui, parce que c'est un catalogue de belles personnes, puis on en a toujours plus et plus et plus et plus. Fait que,
j'aimerais ça te dire que l'apparence physique compte pas pour moi, là. Mais en même temps, quand je suis sur les réseaux sociaux, ben, ce que je check, c'est sa face. On s'entend, j'ai pas d'autres informations. Fait que le gars qui est moins beau, malheureusement, je serais pas porté nécessairement à lui parler. S'il me parle, je vais répondre, là. Puis ça se peut que ça marche quand même, même s'il est moins de mon goût. Mais clairement, c'est pas moi qui vais aller lui parler parce que, tu sais, on va se fier à l'apparence physique. C'est tout ce qu'on a sur ces réseaux-là, là.
Exact. Il y a pas de vibe. Il y a pas d'énergie. En vrai, c'est ça la différence. Ouais. C'est que, tu sais, souvent, tous les goûts sont dans la nature. C'est peut-être quelqu'un de moins attirant physiquement, mais ce qu'il dégage, ça le rend tellement beau ou belle que tu dis... Puis justement, encore là, on peut le comparer à nous. On a une différence. Fait que là, sur photo, tu vois juste ça. Ah, la fille, elle a juste un bras. C'est ça que tu vas voir. Mais là, c'est quand tu me vois en vrai que tu vois que, hey, je suis drôle, puis je suis comique, puis je fais des blagues, puis bon, j'ai d'autres qualités, là.
Mais c'est
dans le sens où...
Tu viens m'en donner
oui,
trois, c'est trois même.
Je sais. J'étais comme, mon Dieu, j'ai-tu d'autres qualités? Mais tu sais, c'est là qu'il voit qu'il y aurait peut-être un potentiel, mais en photo, jamais il se serait rendu là.
Ah, clairement, mais ça, t'as pas tort, par contre, puis j'avais pas nécessairement poussé ma réflexion. Puis maintenant, il y a vraiment des applications, là, dédié aux personnes en situation de handicap, ce qui me cause un autre espèce de malaise, même si je comprends que ça répond à des besoins de certaines personnes, puis qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ça parce que justement ils n'ont pas à cacher leur handicap, puis je comprends. Mais en même temps, je trouve que ça vient renforcer l'idée que les personnes en situation de handicap vont être ensemble. Mm-hmm. Puis moi, ça me dérange, même de la part de certaines de mes amies, disaient oui, mais bon, tu vas finir par trouver quelqu'un en situation de handicap avec qui tu vas être. Puis, mais pourquoi? Pourquoi nécessairement quelqu'un en situation de handicap?
On a même abordé le sujet dans un sketch dans Vestiaire où Michel Charrette, qui joue le coach dans l'émission, c'est un peu comme s'il y avait une idée d'inventer une application comme ça pour matcher les personnes handicapées ensemble. Puis il nous présentait ses idées de concept. Puis le but, c'était ça le message du sketch. C'était comme, mais pourquoi? C'est quoi l'idée? Merci, là, tu veux nous refiler? C'est comme si on était les bouches-trous avec d'autres bouches-trous. Fait que, ah ouais, les bouches-trous, allez-y ensemble.
Puis après, je comprends, ces applications-là existent, puis je comprends vraiment ceux à qui ça peut répondre à un besoin pour certaines personnes, puis j'enlève pas ça. Ceux qui sont à l'aise avec ça, tant mieux. Mais moi, ça me crée toujours un malaise par rapport à ça. Et même chose pour les émissions particulièrement dédiées à faire des matchs entre personnes en situation de handicap. Ouais. T'as sûrement été appelée pour ça, j'ai été appelée aussi, voilà.
J'étais déjà en couple, mais de toute façon...
Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce
pas allée
que...
Non plus.
Je comprends l'idée. Je comprends vraiment l'idée, mais là, c'est de faire un show avec des personnes en situation de handicap qui tombent amoureuses l'une de l'autre et de jouer sur les handicaps des personnes pour faire une espèce de drama autour de ça, là, une espèce de ligne dramatique de « Mon Dieu, elle pogne pas, puis on va essayer de la faire pogner. » J'étais très mal à l'aise avec ça. J'en ai parlé avec des amis, puis « Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu moi qui ai un malaise qui est mal fondé? Faut-tu que j'aille voir mon psychologue? » Puis ils m'ont dit « Non, moi aussi, ça, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. » Puis, tu sais, s'il y a des gens qui veulent écouter, tant mieux, j'ai rien contre ça. Puis, il y a personne qui nous appelait, faisait leur travail, là. Mais j'ai un malaise avec ça parce qu'on dirait que ça perpétue l'idée de les personnes de ce genre d'handicap vont être ensemble. Tu sais, mais ça, à un autre niveau, on n'aurait jamais des réalités où, par exemple, des personnes qui viennent du Vietnam sont obligatoirement en couple avec des personnes qui viennent du Vietnam et que les seules personnes qui sont dans ce show-là, c'est des gens du Vietnam. Ça ferait scandale, tu sais. Mais pour des personnes en situation de handicap, c'est encore correct.
Mais c'est là où je disais, il y a encore un step à faire. Pour faire un vrai step, mets-moi à occupation double. Ça, ce serait un vrai
step. J'ai pensé. C'est pas que je vais aller à occupation double, tout le monde, là. J'ai pas que ça à faire, là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout.
Moi, oui.
Mais, je me suis dit, je vais peut-être aller faire les auditions, je sais pas voir la face qu'ils vont faire.
Ben, moi, je les ai faites trois fois. J'avais 203, j'ai été refusée trois fois.
Okay,
mais,
donc.
Je veux dire, oui. Mais bon, à un moment donné, c'est quand il y avait une nouvelle monture, puis il y a Julie Snyder qui disait haut et fort,
on veut diversité,
diversité. Ben moi, je me suis dit, j'en suis une, sur patte. Puis allez, si vous voulez vraiment faire le saut, c'est le temps de le prouver. Ils l'ont pas fait. Tu sais, après ça... ils me connaissent, là. Ils connaissent. C'est la journée qu'ils vont être rendus là. Si je suis célibataire, ils vont m'appeler.
Oui, ils vont t'appeler, mais on dirait qu'ils sont pas rendus là, effectivement.
Ils sont pas rendus là du tout. Il y a eu une personne trans il y a quelques années. Ça a quand même beaucoup fait jaser. Ils sont allés toucher à ça, mais après ça, c'est pas juste dans la diversité sexuelle, tu sais, qu'il faut aller.
Non, c'est ça. Faut aller ailleurs. Puis ça, on dirait qu'effectivement, ils sont pas rendus là.
Mais
bien
ça,
qu'ils
ça
tireront
serait...
pas, ils tireront pas comme ça, là.
Non.
Mais toi, qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans?
Ben, moi, je trippe. Je suis une fan d'Occupation
double. Okay.
C'est mon plaisir coupable. J'aimerais ça que ça dure des mois et des mois. Ça dure juste 3 mois, c'est pas assez. Non, okay. Moi, là, mon rêve, c'est de passer l'autre bord de la télé puis d'avoir un talk avec chacun des participants. Je trouve ça tellement intéressant. C'est des vraies émotions.
Bon, OK.
Je pourrais t'en parler pendant 3 heures.
Mais moi, j'ai jamais vraiment écouté Occupation double,
j'adore.
Là, parce que le ton me dérange dès le début, là. Ça m'attire pas particulièrement.
Mais c'est pour, je veux dire, on se fait diversifier. C'est la diversité.
J'ai rien contre, pour ceux qui aiment ça, tant mieux. Moi, je me suis jamais assis à l'écouter au complet, puis peut-être que si je l'écoutais au complet, puis que je m'attachais au candidat, ça serait autre chose. Pour l'instant, j'ai pas de sentiment d'attachement, donc j'en vois
c'est
pas l'intérêt.
Fou,
mais le jour où tu vas y aller dedans, je vais peut-être te suivre.
Il y en a que je...
Juste pour voir la face des gars, là, qui vont capoter.
Et le pire, c'est que moi, j'ai des prothèses de jambes qui font en sorte que quand je les mets, ben, ça sert pas à grand-chose à part avoir des essais comme des échasses, puis je suis plus grande.
Puis c'est pas très confortable, il paraît.
Non, mais imagine une robe longue, on les voit pas. Ouais. Puis là, je suis sur le tapis rouge, occupation double. Puis là, tout le monde pense juste que j'ai pas de bras. Puis que c'est juste ça, puis que je suis grande.
Puis là, maintenant, ils me choisissent,
oui. Puis là, genre, j'enlève les jambes. Wouh, si, ou.
Ah non, moi, je suivrais ça.
Oui, ça serait bon.
Juste pour voir la face qu'ils font. Sur un même là, hors d'idée, raconte-moi, mettons, dans Bande de malades, ton meilleur sketch, genre, la chose qui t'a le plus fait rire, c'était quoi?
C'est une bonne question. Mon Dieu, faut que j'y pense. Il y en a eu plusieurs. Mais ce qui me faisait le plus rire, c'est exemple, tantôt on parlait de l'épicerie, là, quand on demande de l'aide pour les choses qui sont trop hautes. Mais de demander de l'aide, mais quand les gens s'en viennent pour t'aider, de donner exemple la boîte de céréales, de dire, ben non, monsieur, je veux être indépendante, donc je veux que vous me preniez.
Oh.
Et que moi-même, je prenne la boîte de céréales.
C'est quand même drôle.
Il y a eu des sketchs où on jouait beaucoup sur le malaise. Puis les gens embarquaient.
Les gens embarquaient, ouais.
C'est ça qui est le plus fou, c'est que j'ai déjà demandé à des gens de m'empiler une poignée, plus qu'une poignée, là, genre des dizaines de scènes noires sur le doigt en équilibre. Ça tient pas en équilibre. Là.
Oh.
Tu peux peut-être en avoir deux droits, là, mais après ça, ça tombe. Puis genre, les gens persistaient, là, puis ils recommençaient. Bon. Puis ils voulaient pas là, me décevoir ou ils me faisaient faire l'avion pour manger des bouchées à la dégustation gratuite chez Costco.
Oh.
Tu sais, je veux dire, c'est comme si je te dis, je peux-tu avoir de l'aide, ils vont m'aider, mais si je te dis, je veux faire l'avion... Les autres sont comme « what the fuck ».
Mais en même temps, si tu veux faire l'avion, moi je suis là, puis que ça te fait plaisir, je vais le faire. Là.
Mais les gens le faisaient.
Ben oui,
mais
ça.
Mon Dieu, qu'ils devaient trouver ça bizarre. Avant de savoir que c'était des caméras cachées,
oui,
là, ils devaient se dire dans leur tête « qu'est-ce que je suis en train de faire là, là? ».
Oui. Ah, mais clairement. Mais en même temps, moi, c'est ça qui te fait plaisir. J'y vois pas d'inconvénient.
Mm-hmm.
Mais effectivement, ça cause des situations un peu loufoques, mais c'était tout le but de la... C'était tout le but de l'émission aussi. Puis il y avait des gens en situation d'handicap physique, il y avait des gens en situation d'handicap intellectuel aussi.
Ouais.
Entre autres, des personnes qui avaient trisomie 21, donc physiquement, là, ça se voyait. Pour les gens qui connaissent un peu ça, là, on est capable d'identifier souvent là, que quelqu'un a une trisomie 21. Puis ça faisait... il faisait aussi des sketchs, puis c'était quand même amusant, c'était quand même ludique. En tout cas, l'idée était bonne, mais comme tu disais, à un moment, on arrive au bout de ce qu'on peut faire. Est-ce que, en terminant, ce que tu trouves, à part, maintenant, la diversité à l'écran dont on a parlé beaucoup, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau de la société pour adapter aux personnes en situation de handicap?
Mon Dieu, est-ce qu'on a encore une heure?
Non. fais-moi un discours court, mettons.
Ben là, un discours court, c'est qu'il n'y a pas de discours court. En fait, il y a tellement à faire. C'est pour ça, en fait, je vais te ramener ça à la télé encore. Parce
oui.
que la télé reste un média traditionnel que les gens
oui.
écoutent beaucoup. Et ça sensibilise, ça l'éduque, on le dit. Donc, en fait, ça, si ça passe par la télé, ça va venir, ça va avoir plein d'effets dominos.
Oui.
Là, les gens, ça va amener des discussions. Autant avec les jeunes qu'avec les moins jeunes. Les mentalités plus vieillissantes, les mentalités plus jeunes vont être sensibilisées à des personnes différentes. On n'aura plus de réaction autant en public que quand quelqu'un cherche un emploi. Parce que là, si quelqu'un qui est un employeur, il t'a vu à télé, puis là, il sait que, genre, tu peux tout faire, il est sensibilisé à cause des handicapés, bien, il n'y aura pas de problème dans son cinéma d'engager ou une serveuse au restaurant quelqu'un qui a un handicap. Puis là, après ça, la serveuse qui a un handicap va servir des clients qui vont être sensibilisés.
Oui.
C'est tout un effet de chaîne et de domino.
Oui.
Fait que, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que ça passe d'abord et avant tout dans le regard des gens. Puis dans leur façon de nous voir, faut pas justement, tu disais, infantiliser.
Faut pas victimiser
faut
non
pas
plus.
Victimiser.
Moi, je vois beaucoup la victimisation. Les gens font pauvre toi. T'sais, ou quand l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un, tu sais, quand je disais qu'il y a des choses qu'il faut pas que j'entende, là, mais une personne qui disait, mon Dieu, il y a des gens qui sont bien moins bien pris que nous autres. T'sais. Donc, pour ça, c'est vrai, il faut changer la façon de voir les choses. Merci, Charlie.
Ça fait plaisir.
Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Pis-toi ta journée. Merci, Mathieu Tessier, à la régie. Bye-bye.